Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on va pas se mentir, on va dire toute la vérité, rien que la vérité, je vous le jure. D'ailleurs c'est marrant, mais quand j'entends quelqu'un commencer une phrase par « je vais pas vous mentir », je me dis toujours deux choses. Alors d'habitude il ment toujours, pour une fois il va me dire la vérité, ça tombe bien, ou alors « ah bah là je crois qu'il va donc me mentir s'il me dit « je vais pas vous mentir ». Le mensonge, c'est un élément utile hein, pour les scénaristes et pour les auteurs en tout genre, parce que c'est potentiellement un outil pour faire des bons ressorts scénaristiques. Moi par exemple, j'ai longtemps cru que Hajime Isayama nous mentait en mentant à Eren et en omettant de nous dire pas mal de choses. Vous voyez ce que je veux dire sur le monde, sur l'attaque des titans. Bon, au final, il mentait pas tant que ça, mais pendant longtemps, j'ai cru que c'était un gros mytho.
Sauf si on part du principe que tous les auteurs sont des menteurs en nous racontant des histoires.
Est-ce qu'ils sont globalement aussi?
Ils sont plus manipulateurs que menteurs.
Oh.
Bon, même si quand on fait un top mytho, ouais, ça peut se rejoindre. Vous avez des mensonges que vous avez en mémoire, alors soit un gros mytho que vous avez dit un jour dans l'émission, ou soit un manga sur lequel vous avez toujours menti, ou même menti à vous-même, genre ouais, Akira, c'est vraiment mon œuvre culte.
Alors, je pense que je n'ai jamais prononcé cette phrase, donc je suis exempte. Voilà, maison magique. Mais laisse-moi réfléchir. Je pense que.
Alors, c'est l'intro de l'émission, faut qu'on aille vite.
Ouais, non, mais peut-être mensonge par omission. Tu vois, genre, je n'analyse pas tout parce qu'on va très très vite et des fois j'oublie des choses.
Oui, j'ai un mensonge pendant des années, on peut dire que ça court jusqu'à maintenant. J'ai toujours dû que j'avais lu du Jiro Taniguchi et pas du tout. Mais alors, je vous explique pourquoi je disais ça tout le temps, c'est qu'il y a une époque où les seules personnes qui acceptaient de lire du manga, c'était toujours du Taniguchi. Donc quand tu parlais à quelqu'un que tu voulais parler manga avec cette personne, t'étais sûr qu'elle allait te sortir Taniguchi et pas les autres titres, tu vois, pas les autres auteurs. Donc fallait un peu faire croire que oui, bien sûr, moi aussi Taniguchi, mais j'avoue que Taniguchi m'a jamais intéressé du tout.
Oh. Aujourd'hui, on vous parle de mytho dans le manga, mais aussi du nouveau titre de Tamura, l'auteur de Beelzebub qui vient de sortir aux éditions Kihun. Ça s'appelle Cosmos et vous allez voir que tout ça est très très lié. Vous êtes dans la cinquième de couve, générique.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards! Oh, this new crazy mother...
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couve, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer et mentir sur les mangas. Ce serait marrant, une émission sur un manga qui n'existe pas. Ça, on invente tout de A à Z. Dragon Witch Doctor, la nouvelle tuerie du Jump, c'est pas vraiment le manga cette année.
Si, totalement. Moi, mais je mets une grosse pièce dessus.
Il faut mettre des règles, du coup. Alors, t'as pas le droit de contredire l'autre personne, ou alors si tu la contredis, il faut que ça soit un vrai débat et pas juste, non, tu te trompes, il fait que 50 pages et pas 192.
Salut Julie, salut Cagnard. Est-ce que vous allez dire la vérité, rien que la vérité, dans cette émission?
Bah comme toujours.
Non, adepte du mensonge, comme d'hab.
Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la cinquième de couve, le podcast Manga Hebdo depuis 10 ans maintenant. Donc scrollez dans vos applis podcast. Il y aura obligatoirement plusieurs émissions pour vous. Puis merci de nous soutenir en écoutant, en partageant et en commentant. Tout ça, ça compte énormément. Aujourd'hui, on va se pencher donc sur Cosmos et sur les personnages un peu mythos dans le manga. Puis la semaine prochaine, on vous prépare une sélection de 5 séries courtes que vous avez sûrement raté, sauf si vous lisez absolument tout, mais pour les autres, vous les aurez sûrement raté. Cosmos, c'est donc le manga avec lequel on commence cette émission. C'est le nouveau manga de Tamura, l'auteur de Beelzebub, entre autres. Il a fait d'autres titres. Et c'est un manga dont le personnage central est un détecteur de mensonges vivants. Il sait quand tu mens. Il est comme ça. Donc personne ne peut lui mentir. C'est pour ça qu'on va d'abord parler de ce manga, mais que derrière, on vous a préparé un petit top de personnages et de titres bien gros mythos qui vont arriver donc dans la deuxième partie de cette émission. On commence avec Cosmos. Cosmos, c'est un manga qui sort aux éditions, qui vient de sortir aux éditions Kihun. C'est déjà 8 tomes au Japon. C'est surtout le premier seinen de Tamura. puisqu'en fait il a changé d'éditeur au Japon et il ne travaille plus avec Shueisha, il ne travaille plus dans la galaxie Jump, il est passé maintenant chez Shogakukan et donc il sort ce titre Cosmos, son premier seinen. Le résumé, on est dans le Japon contemporain, on va retrouver Kaede qui est un lycéen discret et un peu à part. Sa particularité, c'est qu'il est capable de détecter les mensonges, donc il va l'isoler des autres et l'empêcher forcément, vous imaginez bien, de nouer des relations sincères avec ses camarades. Mais sa vie bascule lorsqu'il rencontre une drôle d'enquêtrice assez mystérieuse qui travaille pour une organisation secrète appelée Cosmos. Cosmos, c'est une compagnie d'assurance spécialisée dans les extraterrestres. Car oui, à l'insu du grand public, des aliens vivent sur Terre, soumis à des règles bien strictes pour préserver l'équilibre avec les humains. Et donc rapidement embarqué comme apprenti agent d'assurance, inspecteur d'assurance, qui a aidé à découvrir un monde où fraude, drame personnel et vérité cachée s'entremêlent. Sa capacité devient donc un outil précieux, vous imaginez bien, pour un enquêteur, pour démêler le vrai du faux. C'est un manga qui parle donc de comment vivre avec les autres quand on voit un peu trop clair dans un monde qui est très 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 Men in Black. On est obligé de penser à Men in Black quand on lit ce manga. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, on va en discuter, mais voilà le panorama de ce qu'est Cosmos de Tamura.
Bah, c'est un manga, je trouve, qui est très perturbant pour les fans de Tamura. Enfin, quand je dis les fans, c'est ceux qui ont déjà lu certaines de ses œuvres. Et tu vois, tu parles du changement d'éditeur. Je trouve qu'on le ressent d'autant plus dans ce titre, parce que là où Tamura s'était vraiment illustré par l'absurde et, enfin, même pas vraiment, parce que Beelzebub, c'est quand même une série dans laquelle il avait réussi à mélanger de l'absurde et un petit peu de sentiment aussi. Mais il fallait avancer dans l'histoire vraiment pour arriver à ces moments-là où tu avais vraiment des relations fortes entre les personnages. Les séries qu'il a fait derrière, c'était vraiment des séries full absurdes, des séries toujours courtes, et mine de rien, il était toujours dans le même schéma au final, je trouve, chez Shueisha, où il faisait la même chose, et bah, finalement, ça ne marchait pas. Tu as même Dolphin and Bad Cop, ça n'a pas fonctionné, enfin, ça n'a pas fonctionné, manière de parler, mais c'est pas allé plus loin. Et là, du coup, il arrive avec une proposition qui est différente. Le calibrage est différent. On a toujours cet humour absurde qu'on connaît à Tamura, le pitch même est lui-même absurde. Il pourrait faire penser à un pile de Gintama, tu vois, tellement ça n'a un peu aucun sens.
Je te coupe, l'auteur de Gintama revient avec un nouveau manga
au
Japon.
J'ai vu passer ça. Et du coup, il arrive avec cette proposition où, effectivement, t'as toujours l'absurde, et en même temps, il y a du mélange de sentiments très rapidement, très vite, dans les trois petites histoires qu'il y a dans le tome 1. T'as toujours une exploration un petit peu des sentiments, des backgrounds, des persos. Et de l'autre côté, c'est vraiment perturbant, parce que il y a aussi cette violence que je n'avais pas forcément vue dans des titres précédents, c'est-à-dire là où Beelzebub était violent parce que ça se battait quand même et compagnie. Là, on voit vraiment des scènes où ça arrache les yeux, ça éclate des têtes par terre, donc le côté seinen, il est vraiment présent là aussi. Le problème, c'est que ce tome 1, le seul problème que j'ai avec ce tome 1 au final, c'est que il m'en faut vraiment beaucoup plus, parce que là, ça m'intrigue vraiment. Ça fait des années qu'il refait la même chose, et là, pour la première fois, je sens qu'il a il veut tenter quelque chose, mais ce tome 1, il est trop court, du coup. Il est vraiment trop court, pour moi.
Ouais, mais c'est plutôt une bonne chose.
Très bonne chose, vraiment une très bonne chose.
Qu'est-ce que tu as pensé, Julie, juste ton premier avis à la fin de la lecture du tome 1, quand tu l'as refermé?
Écoute, moi je suis plutôt intéressée, intriguée, parce que bon, je ne suis pas aussi connaisseuse que Cagnard sur cet auteur, mais quand j'avais vu passer les premiers extraits au Japon à la sortie des premiers volumes, je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas compris, parce que c'était des extraits tronqués. Donc des fois il manquait des pages parce que des fois voilà, il y a des extraits qui passent et ils gardent que les scènes marquantes donc t'as quelques pages qui manquent et du coup tu voyais pas la cohérence en fait de l'histoire. Et typiquement, j'avais pas compris que c'était une compagnie d'assurance par exemple qui était derrière le truc.
Et pourquoi ils sont au Pérou?
Oui, aussi voilà, mais enfin, sans aller jusque aussi loin, c'est vrai que c'était très décousu. Et du coup je m'étais dit bon ok, il est encore dans des délires, pourquoi pas, enfin c'est un peu son genre quoi. Et au final c'est beaucoup plus sérieux finalement que ce à quoi il nous a habitués. Et bah, je suis un peu... Enfin, je ne suis pas mécontente de du premier tome. Je trouve qu'effectivement, il y a plein de très bonnes idées. Et surtout, bah, encore une fois, c'est là aussi où tu te rends compte que bah, les auteurs qui ont de l'expérience, et puis sans doute les éditeurs qui le suivent, bah, ils vont vraiment border le truc pour que le champ des possibles soit vraiment hyper ouvert. Là, tout peut arriver, ou presque. Je veux dire, on peut aller dans le drame, on peut aller vers la comédie, on peut aller vers des choses beaucoup plus graves et violentes. Donc, c'est vraiment un point d'interrogation. Et c'est vraiment une très bonne chose.
Et alors, revenons à la première phrase que j'ai donnée sur ce manga. Comment on vit avec les autres quand on voit ce monde différent? C'est finalement assez presque philosophique, alors qu'on est dans un manga d'action.
Bah, c'est un manga même qui, je veux dire, se cache pas trop là-dessus, tu vois, on utilise le prisme des extraterrestres, mais c'est très facile de faire des comparaisons à d'autres thématiques, on va dire. Et je trouve que oui, il y a un vrai côté, une espèce d'ode au vivre ensemble qui est assez salutaire, et je trouve que c'est vachement bien représenté par le fait que les trois histoires qu'on a, ces trois histoires d'extraterrestres, donc qui ont des problèmes d'assurance-vie, enfin des problèmes d'assurance et donc des problèmes d'argent, ce qui reste au final des problématiques très très humaines, et donc c'est hyper facile de s'identifier à ces histoires-là, même si voilà, elles ont ce petit truc un peu original, un peu fou que Tamura va faire. Je pense notamment à la dernière histoire avec un chat, tu vois, où t'es là, alors ouais, là je reconnais ta graine de folie qui n'a aucun sens, et qui pourtant voilà, réussit encore une fois à faire ce mariage avec des moments bah, assez sentimentaux, et qui en tout cas chez moi ont vraiment bien marché, quoi.
Ouais, bah, en fait, à nouveau, la véritable altérité, c'est celle qu'on ne peut pas imaginer. Donc, normalement, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Et donc, là, tout le défi de la série, c'est quand même de trouver ce qui va rapprocher des personnages qui n'ont vraiment rien à voir, rien en commun, ou alors très peu de choses, et essayer de trouver un socle où ils peuvent, comme disait Cagnard, vivre ensemble, ou échanger, et pas forcément avoir tout le temps recours à la violence, comme on peut le voir. Mais bon, encore une fois, il y en a quand même un petit peu.
Bah, surtout que dans ce monde, appelons la référence, la première qui nous vient en tête, Here Comes the Man in Black.
Ah bah, dès la couverture, avec les costumes, avec c'est vrai que ça fait tilt, quoi, tout de suite. Et je sais pas, enfin, est-ce qu'il joue aussi beaucoup sur la corde de la nostalgie, parce que c'est quand même un film qui date maintenant, et je sais pas si un lectorat jeune s'y retrouvera forcément.
Ouais, mais c'est peut-être pas forcément le lectorat de ce magazine-là.
Oui, aussi.
Ouais, et puis c'est de la ref qui est autant elle est assumée, mais en même temps je trouve pas qu'elle soit spécialement visible dans le récit, tu vois, à part quelques détails comme tu dis avec le costume. Mais par exemple, tu sais, s'ils avaient utilisé
le petit stylo
pour effacer la mémoire, là j'aurais dit oui, bon, ok, c'est un peu grillé. Par contre, c'est marrant parce que niveau ref pop culture, je trouve que le manga il en est vraiment garni. Il y en a plein. Il y a un perso qui est littéralement Ultraman, c'est pas un spoil, hein, c'est Monsieur Ultraman qui est là. Il est question du manga Parasite aussi à un moment, donc j'aime bien ce que... Et ça aussi, tu vois, mine de rien, ce ne sont pas des références très récentes non plus. Donc ça rejoint le côté Man in Black, et puis après, voilà, à un moment, on a 40 piges aussi, tu vois. Je pense pas que les jeunes vont spécialement aller chercher cette ref, et en même temps, je pense que s'ils l'ont pas, c'est pas très grave non plus. Le récit ne s'habille pas du costume de Man in Black, je trouve.
Et même si, et pour Ultraman, la ref est tellement énorme que même si tu ne connais pas vraiment, tu l'as.
Oui, tu captes, c'est un bioman, quoi. Si jamais tu captes pas, enfin, même un bioman, c'est vieux comme ref. Hein.
C'est vieux pire. De fou.
Je me suis dit, Ultraman est beaucoup plus moderne que bioman. Et alors moi, ces refs et cette ref Man in Black, c'est quasiment ce qui m'a le plus plu, dans le sens où l'utilisation de cet univers, qu'il soit inspiré, pas inspiré, peu importe, quoi qu'il en soit, ça m'y fait penser. Bah écoute, j'ai l'impression d'être pas dans un dérivé, mais dans une réexploitation de cette idée. Et ça me plaît, je trouve ça en fait original, alors que ça ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, moi, je me sens dans un nouvel univers très large à découvrir. J'ai envie de voir qui sont les extraterrestres, combien il y en a. J'ai envie de découvrir plein de choses sur cet univers qui, effectivement, a l'air d'être pas pompé, mais inspiré.
Bah c'est comme si c'était une sous-catégorie de Men in Black, tu vois, parce que là, on s'intéresse à l'assurance des extraterrestres. Donc, même là-dessus, je me dis que bon, bah ok, enfin, je m'en fous, tu vois, que t'aies repompé un petit peu le concept. Bah, c'est pas grave, les idées, elles sont faites pour ça.
Ça se trouve, c'est juste la branche japonaise.
Je me suis posé la question pendant la lecture. Ouais. En plus, ils vont au Machu Picchu à un moment. Je me suis dit, ah, mais attendez, du coup, il y a un bureau États-Unis, peut-être aussi, un bureau Amérique latine. Mais c'est. Évidemment, ça ouvre la porte des possibles de fou, mais tu vois, bizarrement, avec le nombre d'extraterrestres qu'on a vus, avec les races qui sont présentées, leurs particularités et compagnie, limite, ce qui m'intrigue le plus à la fin de ce récit, c'est et les humains, donc, parce que la pote de Kaede, du héros, elle est quand même vachement balèze, et c'est une humaine, a priori, donc même les humains m'intriguent, en fait, dans ce comment ils font pour cohabiter dans cette civilisation-là, sachant que Tamura a vraiment bien expliqué son truc, il y a trois niveaux de civilisation, l'humanité en est au niveau 2, donc tu vois, tu dis, ah, bah, du coup, potentiellement un niveau 3, ça peut s'envisager dans le titre aussi, tu vois. Donc, non, c'est très bien millimétré, je trouve, là-dessus.
Et puis le fait même que Kaede ait ce pouvoir, est-ce vraiment un pouvoir d'évolution humaine ou pas? Enfin, tu sais, ça peut
être une technologie alien,
ouais,
et que le héros aura potentiellement après, tu vois.
Et malgré tout, toute cette science-fiction, ces extraterrestres, ces choses, c'est de la SF du quotidien. On est en ville, on fait des enquêtes, c'est ok, on a tout le fantastique, hein. Tout est là, les aliens, l'organisation secrète, c'est une organisation super secrète, exactement comme Men in Black, hein. Et tout est traité de manière quotidienne, bureaucratique, réaliste, tout est fait pour te ramener sur Terre tout en te mettant de la science-fiction un petit peu partout, et je trouve que cette banalisation là, ce côté très terre-à-terre, très technico-pratique de l'aspect science-fictionnel et extraterrestre, bah, ça renforce l'impact émotionnel. C'est-à-dire que je me sens tout de suite concerné par
c'est
tout
normal.
Ça. J'arrive à me projeter dedans.
Il te présente des problèmes de quarantenaire.
Bah, oui.
Vois, des problèmes d'assurance et tout. En vrai, c'est des problèmes de quarantenaire. Enfin, trentenaire, quarantenaire. Mais du coup, oui, c'est logique que l'identification, elle passe encore plus parce que tu sais ce que c'est d'avoir des galères d'argent. Tu vois, vraiment, tu sais que ça peut ruiner ta vie. Et là, c'est littéralement le cas quand les extraterrestres ont des soucis.
Bah, moi, je rebondirais plus sur l'idée d'impact émotionnel que Maxime évoquait parce que, en fait, je pense que l'idée aussi centrale du manga, même si effectivement il y a une grande partie qui concerne l'argent, enfin on va voir comment il est vraiment au centre de l'intrigue, mais il y a tout cet aspect sur l'empathie. Et c'est vraiment une notion que ce manga explore parce que vraiment, il pose des questions avec qui, avec quoi on est capable de compassion, de se mettre à la place de certaines personnes qui, comme je disais au tout début, n'ont rien à voir sur le plan physique, sur le plan de l'histoire, sur le plan des sensations avec soi-même quand on est un humain, un lycéen banal voilà, au XXIe siècle. Et donc, je trouve que la confrontation en fait, entre le côté très rigide de la bureaucratie et tous ces ces vécus en fait qui vont venir se prendre le mur de la réalité financière et vraiment ce qui va faire avancer ce manga parce que c'est la question qu'on poursuit, c'est qu'est-ce qui déclenche chez nous ce sentiment d'empathie.
Et tu remarqueras que malgré tout on arrive à vivre dans une paix galactique.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est très polissé, c'est très, très bien fait. Il y a des règles.
Voilà, parce que c'est ordonné.
Oui.
J'aime bien Attention, on a tout ordonné. Si tout le monde respecte les règles, la paix sera là.
Oui, c'est
J'aime
très
beaucoup.
Japonais. En fait.
Oui, en plus, avec donc l'assurance qui devient le prisme moral. Vous vous souvenez avoir déjà vu des mangas avec des assureurs dans des mangas d'action?
Ushijima, c'est pas vraiment...
Un manga d'action, non. Et puis, ils assurent pas grand-chose, au final.
Ils assurent pas grand-chose, mais ça parle beaucoup d'argent.
Oui, ils réclament beaucoup, ouais.
Le côté bureaucratique, ça peut faire penser un petit peu à Ikigami, dans ce sens où t'as vraiment la bureaucratie et les règles à suivre. Mais il y a l'autre titre de Panini, je suis désolé, je me souviens plus de son titre, mais c'est celui où il y a une apocalypse zombie et le mec, il gère ça comme un chef de projet management...
Salary Man Z,
ouais. Tu vois, où voilà, t'as ce truc qui revient aussi un petit peu du côté... Là, c'est pas administratif, c'est plus du côté management, mais t'as raison, il y a ces éléments du monde professionnel et les éléments les plus barbants du monde professionnel qui commence à infuser vraiment dans le dans les titres un petit peu actuels, et je trouve que c'est intéressant parce que là en plus dès le début, je veux dire, c'est pas des petites histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, on est quand même au cœur de l'histoire de Kaede, et dès la première histoire t'as quand même ce lien direct où c'est un de ses amis qui se révèle être un extraterrestre, et la scène part très vite en couille et même elle se termine de manière assez poétique, c'est assez beau, il y a beaucoup d'action à ce moment là et en même temps beaucoup de douceur. Et au final, c'est pour ça que je disais que j'en ai pas eu assez dans ce tome 1, parce que tu as cette scène d'action où son pote jette les balles de baseball, je trouvais que c'était hyper bien fait. Après, à la fin, t'as l'histoire dans le métro où t'as justement sa pote qui se bat, et je me dis, et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé, genre, mais attends, mais c'est l'auteur de Beelzebub, évidemment qu'il y a de la baston de fou. Mais en fait, on en voit vraiment trop peu, donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de... Vas-y, donne-nous en plus, là, maintenant.
Et plus de moustaches, s'il te plaît.
Et plus de... Bah, si, il faut. Il y a de là, les Yakuza, ils ont des moustaches, ouais. Là, ils ont des petites moustaches.
J'en ai vu quelques-unes.
Oui. Mais moi, ce que je trouve effectivement, enfin, au-delà du côté les assureurs, c'est l'argent. Enfin, vraiment, l'argent est une valeur cardinale et d'emblée, on te dit, il ne faut pas qu'il y ait une autre valeur monétaire qui soit importée de façon illégale sur Terre. Il faut que l'argent terrien, en plus, je veux dire, nous-mêmes, on a moult économies et moult devises, etc. Et donc là, on te dit. Non, c'est vraiment la dernière limite à ne pas franchir, parce que même quand ils commettent des crimes, bah, il y a tout un système judiciaire qui se met en branle, etc. Mais il y a cette idée, cette limite que non, l'argent ne doit pas venir des mondes extraterrestres.
Ouais, mais ça, c'est un clin d'œil, ça. Ça va arriver.
C'est un clin d'œil, mais ça veut dire qu'il s'adresse directement au lecteur. Tu parles d'assureur, tu me parlais des problèmes de quarantenaire, avec un héros lycéen.
Oui, bien sûr, non, mais je veux dire, à partir du moment où il évoque explicitement le fait qu'il ne faut absolument pas qu'une devise extraterrestre arrive sur Terre, c'est que va y avoir une devise extraterrestre qui va arriver sur Terre.
Et puis surtout, il y a peut-être des systèmes d'autres, tu vois, comment dire, de mondes parallèles, d'économies parallèles qui vont être révélées. Et moi, je suis désolée, mais je pense que la personne qui a ouvert la voie on va dire, au manga financier, même si ça existe depuis longtemps dans les seinen, c'est quand même Rinne. Enfin, c'est Takahashi qui a remis le goût de
Oui, c'est vrai qu'il mixait déjà l'humour et le côté très financier.
On va vous montrer les immortels, machin. Non, non, elle parle d'argent tout du long.
Oui, mais ça, c'est parce qu'elle avait des problèmes avec les impôts à l'époque.
Mais oui, mais
et dans toutes ces séries, il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, j'ai l'impression. Peut-être pas Inuyasha, peut-être que Inuyasha il est tranquille, tu vois, mais...
Ouais, c'était trop vieux.
Mais sinon, il y a toujours des problèmes d'argent avec elle.
Et donc, bah, au final, les aliens sont aliens parce que Tamura a décidé que c'est des aliens, mais ils ont quand même des problèmes bien humains, et au final, c'est marrant d'avoir ce manga avec tout ce panorama science-fictionnel qui parle de notre quotidien, ou d'un quotidien en tout cas, en nous y plongeant avec une histoire totalement fantasmée, mais je trouve ça chouette, je trouve ça talentueux.
Ah non, mais 200 pages, c'était pas assez de toute façon. Moi, je suis persuadé que dans les mangas à suivre, il va revenir celui-ci, parce que il est trop ambitieux pour ce cantonné à être une petite histoire lambda. Même le style de Tamura a changé là, tu sens que la proposition est différente. Alors peut-être que ça va pas marcher et que ça va s'effondrer au tome 5, mais là en tout cas il propose quelque chose de différent, donc moi je conseille vraiment de le suivre ce titre, parce que on n'est pas à l'abri que ça soit vraiment un banger. Salut Lo.
Mais après, moi, j'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir ce personnage avec cette faculté. On ne sait pas trop d'où elle vient. Est-ce que c'est un pouvoir psy ? Est-ce que c'est... Voilà, ça aussi, ça va être une piste à explorer, de savoir d'où vient ce pouvoir incroyable de pouvoir sentir l'odeur du mensonge qui se dégage des gens qui lui disent des cracks et qui, effectivement, l'isole complètement et qu'a aidé. Enfin, sa vie, ça doit être catastrophique. Je veux dire, il est super isolé. Il ne peut jamais parler ouvertement avec ses proches, même ses amis les plus proches. Il sait tout de suite si les gens sont honnêtes envers lui ou pas.
Ouais, mais du coup, il se contente de mentir lui aussi. Il ment à tout le monde.
Oui, c'est vrai. Et ça aussi, c'est pas vraiment exploité. Mais là, du coup, je trouve que c'est aussi un personnage courageux, au sens où il est tout le temps obligé, finalement. Enfin, maintenant qu'il connaît ce cosmos, il va devoir se confronter.
Oui, c'est littéralement la dernière page du manga où il y a un truc prise de conscience vraiment et qui est assez touchant aussi pour finir le en dernière page comme ça.
Bah, il doit mentir pour survivre, parce que s'il mentait pas, il n'aurait pas la vie auquel il aspirait un minimum.
Ah oui, mais de toute façon, il démontre bien que les gens lui mentent et lui, il est obligé de mentir. Enfin, c'est la comédie où voilà, tout le monde ment à tout le monde. Sauf que lui, il a un pouvoir en plus, mais il sait très bien que s'il l'utilisait, sa vie, elle serait catastrophique. Donc, il joue le jeu. Là, il ne peut plus jouer le jeu à la fin du tome 1. Là, il est obligé de reconnaître sa propre honnêteté au final.
Mais surtout, bienvenue dans notre univers. Enfin, c'est-à-dire qu'il va voir aussi qu'est-ce que ça fait finalement d'être tout le temps confronté à ne pas savoir sur quel pied danser. Parfois, est-ce qu'on nous ment ou est-ce qu'on nous ment pas, et avoir confiance, donner sa confiance aux gens, c'est aussi un enjeu en fait.
Cosmos de Ryuhei Tamura, c'est déjà disponible. Alors je dis que ça vient de sortir, sorti au début du mois d'avril. Donc c'est sorti au début de ce mois-ci. Le tome 2 sort le 2 juillet prochain, donc ça laisse pas beaucoup de temps à attendre pour avoir la suite de Cosmos aux éditions Ki-Hoon, c'est en librairie. Place maintenant pour la deuxième partie de cette émission à notre top mytho du manga. Alors on n'a pas fait un top genre le meilleur mytho, numéro 2, numéro 3, numéro 4, non. On a fait une sorte de dizaine de catégories, des typologies de mythos. Évidemment pas exhaustive, parce que dans le manga, il y en a plein. Dans la création, il y en a plein, mais dans le manga aussi. On a commencé à faire une liste, en fait, non, mais on peut mettre ça, et puis ça, ouais, bon, on va s'arrêter là, stop, on a déjà beaucoup trop.
Ouais, on a dit trois fois stop quand même, hein. Et on a rajouté des noms quand même.
Ah mais en fait, il y a lui. Et il y a un mytho qu'on aime bien, le mytho pleutre. J'aime bien ce mot de pleutre. C'est Hercule, Monsieur Satan dans Dragon Ball. C'est un personnage que j'ai détesté pour ses mensonges quand j'étais petit pendant longtemps. Alors j'étais jeune, hein, et j'étais beaucoup trop dans l'histoire, j'étais beaucoup trop à fond, mais je l'ai détesté, j'aimais pas ce personnage. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce genre d'injustice vis-à-vis d'une fiction, parce que là on parle que d'une fiction, hein, et c'est pas très grave en plus, c'est un personnage rigolo. Mais alors moi je trouvais ça injuste pour Goku, pour tout le monde en fait, pas que pour Goku d'ailleurs, mais je trouvais ça injuste qu'il prenne toute la gloire alors qu'il avait rien fait, et je trouvais pas ça normal. Bon, au final, il est gentil, c'est le guignol égoïste de l'histoire, et il permet finalement à toute la famille de Goku d'avoir une vie discrète et cool. Mais vraiment, pendant ma jeunesse, j'avais une haine très forte contre lui, et après je l'ai bien aimé, mais au début j'étais beaucoup trop à fond dans l'histoire pour avoir de la distance vis-à-vis d'Hercule.
Bah franchement, haine partagée, hein. Je comprends totalement ce que tu dis, parce que je ressentais la même chose à l'époque, mais parce que en plus il y a ce truc où limite pour moi il gâchait du temps d'antenne, tu vois, genre bah non, montrez-nous Sangoku, on s'en fout d'Hercule, ça va rien amener d'intéressant. Bon, après c'est vrai que comme tu dis, plus tard quand tu redécouvres le titre avec des yeux un petit peu plus adultes et tout, tu vois, pour moi Satan c'est vraiment l'exact opposé de Goku. Satan, il se bat pour la gloire et la célébrité, et il est pas du tout dans l'idée d'un beau combat comme Goku, qui lui veut juste se battre contre les gens les plus forts. Donc je trouve qu'il y a un côté vraiment, c'est un peu des opposés parfaits, alors que je les avais jamais imaginés comme ça. Alors heureusement, comme tu dis, après on l'humanise pas mal avec Bou, avec Videl. Tu vois bien que c'est pas forcément une mauvaise personne, mais c'est littéralement un humain parmi les dieux, quoi, tu vois. Il a réussi à grappiller de... Après, c'était quand même un bon combattant.
Ouais,
entre humains, c'était un bon combattant.
C'était un bon Jean-Claude Van Damme, tu vois.
Ouais, voilà.
Après, moi, j'ai toujours... Enfin, je comprends ce que tu dis, mais j'ai un autre personnage. On en parlera plus tard. Mais pour moi, c'était toujours le côté médiatique. Tu vois, il représente ça.
Oui, c'est toujours devant la télé.
Les fausses images, les fausses... qu'est-ce qu'on peut avoir comme artificialité, comme besoin de fiction dans la réalité pour tenir certains mensonges debout, certaines croyances. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il était sympathique, tu vois. Mais effectivement, je peux comprendre que parfois, il était très agaçant, quoi.
Et ça arrangeait quand même bien tout le monde.
Exact.
Qui prennent toute la lumière.
Mais oui, c'est ça. Même sur la partie bout, tu vois, au final, c'est lui qui le protège. Après, quand c'est terminé, tu vois, c'est quand même lui qui le protège, qui l'assure à ses frais. Et si tu regardes, même dans le récit, bah, lui aussi, il a son moment héroïque, hein. Il prend la tête de ses 16, alors que, tu sais, il a peur de fou et il y va quand même. Alors, c'est ridicule comme moment héroïque, mais il en a quand même un, au final.
Bah, comme Yajirobe à son moment, alors que lui aussi, il avait un petit côté pleutre à un moment donné, mais... Il a eu
mais bon,
son
il a son, voilà, son petit moment quand même.
Mais ils sont pas au miroir, mais dans la manière dont ils sont appréciés par le public, Girobé et Hercule, ils ont un truc un peu commun aussi.
Ouais, mais est-ce qu'au final, Hercule, c'est pas notre première prise de contact avec un vrai menteur du manga, tu vois ? Quand on est petit, t'es là genre, mais vous êtes censés être tous braves, courageux et bien vous battre. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ?
Pourquoi tu fais ça ? Arrête. C'était donc Hercule. Place maintenant, non pas à un personnage, mais à tout le manga, à toute une famille, j'ai même envie de dire, c'est Spy Family. Spy Family, c'est quand même la famille Gigamito. Mais genre giga, il n'y en a pas un qui dit la vérité, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je crois que même le chien, ils arrivent à faire un chien mytho, quoi.
Ça allait être ma première question.
Non mais si, c'est ultra dysfonctionnel, cette famille mytho. Ils sont héroïques, ok, mais c'est ultra dysfonctionnel, quoi.
Après, j'ai l'impression que dans le manga, le mensonge, c'est le ciment de plein de familles. Enfin, je pensais à la dernière série de Tyson 5, par exemple. Là, c'est vraiment très, très, très dysfonctionnel et très, très, très bâti sur du mytho, sur du mytho, sur du mytho. Donc, c'est vraiment
compliqué.
Ouais,
mais compliqué. Il y a de l'amnésie au milieu, alors ouais, on excuse, tu vois. Bon.
Mais après, c'est les fameux secrets de famille qui font des bons dramas familiaux, comme on aime. Donc, est-ce que c'est si grave que ça ? Après, là, vraiment, avec Spy Family, il y a un niveau supérieur qui est atteint, j'ai envie de dire.
Ouais,
parce
et tu crois vraiment que ce côté secret de famille, c'est un des ingrédients de la popularité du manga ?
Je pense parce qu'il le détourne. Parce qu'il offre un versant comique à quelque chose qui est généralement dramatique, voire tragique dans beaucoup d'autres séries. Et là, c'est vraiment détourné. Tout le monde joue les faux-semblants, tout le monde a des masques, mais le tout dans la joie et la bonne humeur. Donc forcément, ça fonctionne et on leur pardonne, en fait. On leur pardonne complètement d'être aussi double et aussi triple, parfois.
Enfin... Et ils se mentent pas entre eux, non ?
Complètement.
Ah si, bon, bah, elle a vraiment rien à faire avec...
Et ceci dit, ils ont l'air plus heureux à se mentir entre eux que des familles qui ne se mentent pas au final.
Oui, et puis c'est ça aussi qui est mis en avant de façon assez comique, c'est l'artificialité des relations qu'on a parfois dans les familles, qu'on entretient. Là, je veux dire, il y a un courant littéraire qui est en train d'exploser en France, qui est vraiment l'exploration justement des secrets de famille à travers toutes des témoignages sur des vies qui ont été gâchées par des familles vraiment violente entre les enfants ou envers les adultes, envers les enfants, etc. Et là, en fait, on est quand même dans une famille qui vit de violence parce qu'ils ont quand même des professions qui demandent à ce qu'ils soient en danger. Est-ce que, c'est quand même c'est serious business. Mais
oui, c'est un agent secret et une tueuse à gage.
Voilà, mais tout le packaging... Et lolilol, enfin vraiment, et on se réjouit que les gags s'enchaînent et que les choses se passent
bien. La petite fille qui prononce pas bien les mots et tout ça.
Bah oui, mais non, moi je trouve que l'aspect famille dysfonctionnel, pardon, est vraiment court-circuité par tous ces gags et par toute cette comédie. Et c'est pour ça qu'en fait, il tire vraiment son épingle du jeu en tant que manga sur la famille.
Ça marcherait aussi sur un manga sur la famille des Uchiwa.
Pardon.
Dans Naruto, tu vois, ils se montent tous. Oh là là, c'est rigolo.
Oui, ça correspond.
On s'entretue. Oh là là, c'est rigolo.
Quelque part, le test de Bechdel du mensonge, tu vois, tu les mets chez les Uchiwa. Est-ce que t'as déjà menti à l'un de tes membres ? Oui, il l'a fait. Est-ce que t'as menti à toute ta famille ? Oui, il l'a fait aussi.
Mais ils sont cheatés, vous avez menti ils au ont village. Leurs
oui,
yeux.
Aussi.
Est-ce que t'as tué des membres de ta famille ?
Oui, il l'a fait aussi. Désolé.
As-tu déjà lavé le cerveau de quelqu'un de ta famille ?
Pour lui faire croire que tu étais toi-même le meurtrier du reste de ta famille ? Ah oui, c'est vrai que j'ai dû le faire une ou deux fois. Les familles de menteurs.
Ça marche. Uchiwa, c'est valide aussi pour la famille mytho. Changement de catégorie de mytho. Maintenant, parlons de Oscar François, la rose de Versailles. Mytho de genre, hein, là, cette fois. Et finalement, quand on y pense, c'est pas Oscar. Alors, Lady Oscar, pour ceux qui ont le dessin animé, l'ancien dessin animé en tête, mais la rose de Versailles pour le manga. Lisez la rose de Versailles, hein, si vous avez que des vieux souvenirs de Lady Oscar. Vous allez vraiment être très surpris de la qualité de l'œuvre, si vous avez vraiment que ça en tête. Bref, Oscar, le mytho de genre. Et finalement, le mytho, c'est pas tant elle que son père. Parce qu'en fait, elle se comporte dignement. Dès qu'elle n'est pas du côté gagnant à la fin pendant la Révolution, mais...
Oui, elle est copine avec Marie-Antoinette.
Oui, voilà, elle est garde du corps de Marie-Antoinette. Mais au final, c'est son père le gros mytho.
Ben oui.
Sans son père, elle ment pas.
Oui, parce que bah, pour moi, franchement, Oscar, c'est comment vivre en exposant les travers, les troubles de sa société, de l'univers dans lequel elle a grandi, puisque donc c'est une fille qui est devenue garçon parce que son père avait des ambitions et qu'il ne voulait rien lâcher. Donc il l'a élevée comme un garçon, il a fait en sorte qu'elle devienne un soldat, qu'elle soit embauchée en tant que chevalier, que garde au stade le plus prestigieux, puisqu'elle est vraiment le garde personnel de Marie-Antoinette, donc la reine de France. Et on a vraiment cette idée qu'il y avait trop de choses qui étaient refusées aux femmes, que son père était vraiment un ambitieux et qu'il était vraiment en quête de pouvoir, et qu'elle a subi finalement ce lavage de cerveau, enfin cette condition vraiment qui a été imposée. Mais là où Oscar est vraiment un personnage emblématique, c'est que c'est un paradoxe ambulant de cette société qui refuse plein de choses, et donc elle expose toutes les contradictions en étant ce qu'elle est, en assumant d'être une femme avec des fonctions d'homme, avec des habits d'homme, et ainsi de suite. Et là où ça commence à coincer, c'est quand elle a des sentiments qui révèlent sa nature féminine.
Exactement, puisqu'il y a aussi une histoire d'amour dans La Rose de Versailles qui vient pimenter tout ça, et l'histoire de France... Ouais. Qui n'est pas non plus incroyablement belle à cette époque-là, qui là aussi pimente sacrément les choses.
Ouais, en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment un beau mytho. Toi, tu disais mytho de genre, mais c'est aussi un mytho dans le sens où bah, le fait d'être cette contradiction, c'est sa force, et elle renverse en fait donc ce fameux stigmate donc d'être née femme et donc sans privilège, à son avantage, en se battant de toutes ses forces pour dire à quel point elle est différente, ou en tout cas qu'elle a une personnalité et qu'elle refuse certaines conditions qu'on lui impose.
Exactement, la Rose de Versailles de Ryoko Ikeda, ça vaut toujours le coup de remettre un œil dessus si vous l'avez jamais lu. C'est compilé en quatre volumes maintenant aux éditions Kana, et tout est toujours disponible, hein. C'est pas un manga galère à trouver ou quoi. Vous le commandez, vous l'avez, que ce soit sur internet, en librairie, tout est entièrement disponible. Et d'ailleurs, c'est pas le seul mytho de ce genre qu'on trouve dans le manga et même dans des histoires en France, puisque le Chevalier d'Éon, on est un peu dans la même typologie d'histoire. Et là encore, c'est aussi en France.
Oui, mais décidément, ça doit être une marque de fabrique. Yeah, made in France.
Autre manga totalement différent, autre mytho totalement différent. Parlons de Iruma, le mytho pour gagner. Le mytho pour faire réussir les autres, pour faire réussir l'équipe, pour faire gagner l'équipe.
Le mytho pour la gagne, en gros.
C'est ça. Iruma, donc, du manga Eshield 21.
Ouais, donc, c'est déjà Eshield 21, il faut quand même garder en tête que pour moi, c'est un des rares mangas où il n'y a pas de présence de coach officiel vraiment dans l'équipe. Et du coup, c'est Iruma qui occupe ce poste. Et tu vois, normalement, même souvent dans les mangas de sport, il y a au pire une assistante qui est à fond et qui connaît quand même un peu très bien les règles, les placements et tout. Là, il n'y a pas de ça. C'est Iruma qui fait tout. En fait, en plus de ce statut de coach, c'est littéralement le stratège de l'équipe, mais stratège en termes de management aussi. Et donc, forcément, de manipulation aussi des cerveaux de ses joueurs. Donc, il a un côté très calculateur qui fait qu'on l'aime particulièrement, parce que tu vois que c'est vraiment un chef d'orchestre et il dirige ses troupes, quoi. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de « oui, mensonge, il n'hésitera pas à te mentir s'il pense que tu vas donner le meilleur de toi juste derrière. »
Mais alors, est-ce que c'est vraiment un mensonge?
Bah ça, c'est typiquement ce que dirait un menteur, tu vois.
Parce que, non, mais pour lui, oui, mais effectivement, et d'ailleurs, il le dit, il fait les choses autrement.
Oui.
Donc, c'est pas... Il part du principe que c'est pas un mensonge, il fait les choses autrement pour arriver à ses fins. Il a même son petit carnet de chantage.
Ah, ça, c'est craigneux quand même.
Comment ça? Tout le monde a un carnet de chantage, surtout à l'école.
Bah, le carnet, c'est pour après.
Ouais, c'est ça, exactement. iShield 21, c'était les 21 ans d'iShield 21 en France au début du mois de mars, le 4 mars dernier. 21e anniversaire d'iShield 21 au Japon, 21e anniversaire de la série en France. iShield 21 Brain Brave est sorti de Inagaki et Murata. C'est un one-shot qui est au carrefour du databook et du manga avec des anecdotes, des souvenirs de création, des interviews, collaborations d'auteurs extérieurs. Et puis, il y a un one-shot inédit de 55 pages dedans pour retrouver Senna et Iruma et le terrain. Et en plus, il y a une édition anniversaire du tome 1 d'iShield 21 avec une jaquette alternative qui est également sortie en France tous les deux aux éditions Glénat. Donc voilà, ça valait le coup aussi de parler de iShield 21 pour ça, pour ce 21e anniversaire. D'ailleurs, on a reçu l'auteur de iShield 21, scénariste d'iShield 21 dans cette émission. Vous cherchez en scrollant un petit peu, il y a une très chouette interview qu'on vous a proposée de lui dans la cinquième de couve. Parlons maintenant de peut-être pas le plus connu, mais pas loin hein, des mythos. Ouais. Parce qu'on va aller vers One Piece et on va aller vers Usopp. C'est le mytho marrant, Usopp. Le ouais. Mytho, on aime bien quand il fait des mythos.
Ouais, c'est le mytho un peu basique, le mytho simplet, peut-être même on peut dire si tu reprends l'histoire de Usopp au début de One Piece.
Usopp qui en français dès le début s'était appelé Pipo, tout à fait.
Ouais, c'était Pipo.
Mais c'est bien parce que Uso ça veut dire mensonge en japonais.
Donc, c'est, au final, moi je trouvais que Pipo à l'époque en tout cas ça me dérangeait pas plus que ça en tout cas. Et c'est vrai que le début de son histoire ça ressemble plus à Pierre le Loup parce qu'il passe son temps à faire chier le village. Et ça ressemble vraiment à un conte. Il y a un côté conte dans l'histoire d'Usopp. Et finalement, tu vas voir que c'est juste une grande gueule et qu'il ment énormément quand il raconte ses histoires. D'ailleurs, il y a bien que Luffy pour croire à ses mensonges, même si bon, je suis pas persuadé qu'il y croit à 100%. ouais. Et Chopper aussi, effectivement. Et du coup, avec Usopp, ce qui me paraissait intéressant, c'était de faire un parallèle avec Mont Blanc de Norland, qui est un personnage qu'on voit dans One Piece. Et un peu à la manière de Sangoku et d'Hercule, je vois vraiment un peu les deux faces d'une même pièce, parce que tu vois, Usopp, lui, au début de l'histoire en tout cas, il fait pas grand-chose et il ment beaucoup, alors que Mont Blanc, c'est exactement l'inverse. Il a réussi des exploits de fou, mais personne ne le croit. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu ce feeling les deux faces d'une même pièce, et a priori, en regardant un petit peu sur le net, de ce que je vois des théories, c'est pas impossible qu'il y ait une filiation directe en fait entre ces deux persos.
Bah, moi, tout à l'heure, on évoquait Hercule, enfin Mister Satan, et vous disiez oh là là, il m'énervait quand j'étais petite, et moi c'était Usopp. Enfin, en fait, je trouvais qu'il était vraiment. Enfin, quelque part, il m'a toujours un peu énervée, c'est mon Hercule à moi, parce que je trouvais que, en tout cas, au début de la série, quand il apparaît, enfin. Il habille en fait toute sa pleutrerie avec ses belles paroles et il essaye de se faire bien voir de Kaya. Bon, elle est très contente, voilà, qu'il vienne la divertir avec des belles histoires. Mais
ah oui,
il y a
celle
toujours...
qui a la maladie. Bah... la maladie.
Merci Netflix.
Le manga trouve... aussi. Hein.
Ouais, mais après, enfin, c'est ça qui est un peu agaçant, c'est que malheureusement, enfin, même si il change beaucoup. Dans la série et son changement est surtout émotionnel, enfin il va mûrir, il va grandir, mais ça prend un temps différent de beaucoup d'autres personnages qui sont très forts en fait et déjà et qui vont gagner des galons beaucoup plus moi je trouvais que c'était aussi un peu l'ami des enfants, tu vois, c'est au sens où il est le plus proche d'eux parce qu'il n'a pas de super pouvoir, enfin,
les enfants vont écouter ses bobards,
voilà,
en tout cas ça c'est sûr,
et il est le chef de la petite troupe et tout, enfin, donc moi je sais pas, il y avait ce truc un peu agaçant que
j'avais
chez...
Mais t'es dur sur la comparaison avec Hercule parce que Usopp, c'est vraiment un des persos principaux, là où Hercule, c'est un figurant,
ouais,
quand même.
Ouais, c'est son beau-frère ou son... Comment on dit
Mais c'est sur toi que les fans de Hercule ou de Usopp vont s'abattre, hein, pas sur moi.
Et les enfants racontent beaucoup de bobards.
Exact.
Évidemment.
Également, c'est des gros mythos, les enfants. Tu disais que Usopp, ça voulait dire, c'était en japonais ?
Uso, ça veut dire, Uso c'est le mensonge, c'est faux. Quand on dit Uso, c'est tu mens, tu vois.
C'est
tu
mentiroso.
Voilà, exactement.
Usopp, ça vient aussi de Aesop.
Ah oui.
Oui. Auteur grec qui a fait l'enfant qui criait au loup, les fables d'Aesop. Il s'appelle Usopp. fable, son nom de famille.
Je sais pas.
Ça fait les fables de Ésope. Et qui a donc fait l'enfant qui criait au loup. Histoire que tout le monde connaît aujourd'hui, puisque c'est cet enfant qui disait « Il y a les loups qui attaquent, il y a les loups qui attaquent. » Ah non, c'est une blague. Et le jour où il y a les loups qui attaquent, évidemment.
Personne n'écoute.
Et oui. Donc ça vient aussi de là, son nom Usopp. Wow. Ce qui nous éloigne de Pipo, pour le coup. Autre mytho, le psychomytho. Light Yagami Death Note.
C'est Master Mytho, franchement.
Master Mytho ou Master Psycho, je sais pas.
Oh bah c'est Mytho Psycho, pour le coup, oui, on est dans du Mytho Psycho et c'était intéressant de l'avoir. Alors c'est évidemment pas un classement, mais c'est un personnage qui représente bien le mensonge, je trouve, dans cette époque de manga un petit peu moderne. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'un des premiers mangas que je lis où vraiment le mensonge, c'est la forme principale de combat entre lui et N. C'est vraiment il a dû mentir, mais il avait pas calculé que moi j'avais menti en disant ça et que du coup il avait menti. Et du coup c'est un peu particulier, c'est vraiment hyper original dans sa forme, parce que c'est la forme de combat, quoi. C'est celui qui mentira le plus, et d'ailleurs, si tu regardes le manga, en fait toute la vie de Light, elle tourne autour du mensonge. Et ça, c'est avant même qu'il obtienne le Death Note. Il mentait déjà à tout le monde en se faisant passer pour l'élève parfait et compagnie. C'est vraiment un personnage qui n'a pas arrêté de mentir du début à la fin. Il a même essayé de mentir aux dieux, tu vois. Et c'est du coup le dernier fight qui perdra, on va dire. Mais je trouve que voilà, c'est un personnage qui est toujours intéressant quand on parle de mensonges dans le manga.
Et je crois que parmi tous les personnages dont on a parlé depuis le début de cette émission, c'est celui qui mériterait le plus une bonne psychothérapie.
Un cas désespéré, hein, j'ai envie de te dire. Mais
figurez-vous que sur le réseau social Reddit, certains ont essayé de le diagnostiquer.
Ok.
Des gens qui sont fans de manga et qui sont psychothérapeutes ou étudiants, ils ont essayé de le diagnostiquer et j'ai notamment vu des attributions de TPA, trouble de la personnalité antisociale. On est avec un garçon qui a un foyer sain. Normal.
Non, on l'a poussé à l'excellence depuis le début quand même.
Il a une bonne éducation, il a le sens du bien et du mal.
Oui.
Il s'est pas fait tabasser,
C'est justement sa notion du bien et du mal qui va évoluer.
Et les symptômes sont donc le manque d'empathie.
Clairement.
Les comportements de défi, de manipulation, les gens qui souffrent de TPA ont tendance à violer les droits d'autrui sans se soucier des conséquences.
Ouais, c'est le fameux pervers narcissique qui...
Je crois que c'est pas exactement la même chose que le TPA, mais...
Il y a une base.
En soi, c'est un serial killer. À grande échelle, c'est un serial killer.
Au final, il devient un serial killer.
Je suis pas sûr que ça soit un trait de psychanalyse, serial killer. Enfin, c'est un blaze.
Non, mais le manque d'empathie, clairement, c'est vraiment un trait qui est commun à beaucoup de gens.
Le défi, il passe son temps à défier l'autorité et compagnie.
Il se croit plus malin que tout le monde, c'est sûr, et il y a aussi cette espèce de... Comment dire? Il veut vraiment avoir l'ascendant sur plein de gens parce qu'il se croit plus malin que les autres et plus mieux éduqué et plus... Enfin, comment dire? Toujours avoir un coup d'avance. Mais c'est quand même le personnage le plus problématique, je pense, de la sélection. Enfin, peut-être pas remarquable.
Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, que ce soit en France, aux États-Unis, ailleurs, il y a des gens qui ont les connaissances en psychologie, en psychothérapie et qui s'intéresse aussi à des personnages fictifs.
Mais j'adorerais qu'on fasse ça pour plein de méchants dans le manga, en fait.
Dans le Geek Magazine, à une époque, il y avait
Profil psychologique.
Avec un divan et une discussion. Je me souviens d'un article où c'était écrit par un psychologue. Hein, discussion avec Vegeta, etc.
Là, il faut faire venir Eren, tu vois. Alors viens.
Oh là là.
Faut qu'on parle, faut qu'on discute.
Gros sur la patate.
Mais c'est très fictif, mais c'est assez drôle, à lire ou à faire dans tous les cas. Changement de manga. Cette fois, on va du côté de One Punch Man. On était obligé d'en parler. King, c'est pas lui le mytho. Ou en tout cas, lui, il dit rien. Mytho par omission, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est plus le mytho par omission. Alors, moi, c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup parce que, comme tu dis, c'est les autres qui mentent à sa place. Et lui, il se contente vraiment de rien dire.
Ouais, parce que, juste pour ceux qui ne connaissent pas One Punch Man, King, c'est un, alors c'est un personnage secondaire en plus, qui fait partie du top des
ouais,
super-héros.
Top 5 ou le top 3 des meilleurs super-héros.
Alors que pas du tout.
Alors que en fait, c'est une série de quiproquos qui fait qu'il se retrouve très souvent à côté d'un monstre qui est mort et du coup tout le monde pense que c'est lui qui l'a tué et en plus il a un visage assez agressif, du coup tout le monde fait le rapprochement, sauf que King s'est a priori jamais battu et du coup j'aime bien déjà le fait que les autres mentent à sa place, que lui il se contente de rien dire, mais je pense que la vraie lâcheté de ce personnage, tu vois, elle réside pas dans le fait d'être faible, mais c'est surtout de pas assumer sa place. C'est lui aussi, encore une fois, un homme parmi les dieux, quoi. C'est même pas genre, oh, mais s'il avait un petit peu plus de courage, il pourrait faire quelque chose. Le courage a été démontré plein de fois dans One Punch Man à différentes échelles. Mais là, c'est vraiment le problème que lui, il se bat vraiment avec les trop puissants, quoi. Il y peut rien. Et pourtant, comme je l'avais dit la dernière fois qu'on avait parlé de One Punch Man, je sens qu'il va avoir un très beau moment. Quelque part dans la suite du manga, je sais qu'il va avoir quelque chose de bien, parce que tu ne t'occupes pas d'un perso à ce point si c'est pour vraiment juste en faire un truc drôle, sachant que le running gag maintenant est quand même très connu. Je sens qu'il va avoir sa belle, pas forcément épiphanie, mais son beau moment, quoi.
Comme Hercule et Yajirobe, tu veux dire?
Oui, enfin non, plus beau, vraiment beaucoup plus beau. Arrêtez de tout comparer à Dragon Ball. Faites pas les quarantenaires.
Non, mais ça, c'est Maxime. Mais moi, je trouve que c'est difficile de pas avoir de compassion pour King. Pareil, je trouve que c'est un super personnage. Il se retient très fort de pas se faire sur lui-même, alors que en fait, il est vraiment beaucoup la pétoche, tellement que son comment dire, les battements de son cœur deviennent sa signature. Parce que lui, il est flippé et tout le monde est là, genre en mode, ouah, c'est le signe de son courage.
Ouais, c'est la marche funèbre de King. Quand on l'entend, c'est qu'on va mourir.
C'est n'importe quoi, mais et en fait, pour moi, je trouve que c'est vraiment l'atout de la série, parce que il est nous, il est l'ensemble des lecteurs qui, comme tu disais, nous, on n'a pas de super pouvoir, on est juste là pour profiter de la série.
Alors vous,
oui, pardon, toi, t'as des super
pouvoirs. Moi, je vois mieux les couleurs que tout le monde.
Oui, c'est vrai, mais moi, je me dis que quand tu te mets à la place de King, tu vois quelle serait une vie de galère à travers lui, parce que tu dois assumer des choses qu'on t'a attribuées, tu veux pas vraiment, t'es content quand même de profiter un peu de la gloire, mais tu veux pas non plus assumer complètement les exploits qu'on t'attribue, et quelque part t'as envie de lui dire merci King, parce que c'est à travers lui que tu peux aussi profiter un petit peu de tout cet engouement pour les super-héros, etc., et tout ce que ça entraîne, en fait.
Et on va rester avec One, parce que One a fait un autre manga qui s'appelle Mob Psycho 100. Et là, on a un bon mytho, un vrai mytho, qui s'appelle Reigen, Arakata Reigen, qui incarne le mytho manipulateur. Il fait croire qu'il est médium, alors qu'il a absolument aucun pouvoir. C'est un escroc qui va utiliser Shiego pour ses pouvoirs, enfin Mob. Et je trouve qu'il est intéressant pour son évolution. Ça, c'est le point de départ que je vous donne. Et au fur et à mesure de Mob Psycho 100, au fil des tomes, il part donc de très bas dans l'esprit des lecteurs. Et il ne peut donc que s'améliorer. Et heureusement, il s'améliore. Il garde ses défauts, mais il s'améliore. Il va aider Mob, il va aider Shiego, il va l'accompagner. Il va faire quelques trucs quand même plutôt classe ensuite. Mais voilà, on part vraiment du bas de l'échelle avec le bon mytho escroc.
Ouais, le mytho religieux escroc, un classique au Japon, en vrai.
Le vrai de vrai. Autre mytho, cette fois, dans Hunter x Hunter. Mytho ou pas, je sais pas. Mytho ou psycho, là aussi, ou...
Très psycho.
Ou très psycho et pas mytho du tout, je sais pas trop. C'est Hisoka, de Hunter x Hunter.
Bah, je pense que dans Psycho, t'as mytho, de toute façon. Enfin, je sais pas si ça fonctionne comme ça. Comme vous voyez, mes connaissances dans la matière sont vraiment poussées. Mais pour moi, Hisoka, gros mytho. Hein. Hisoka est le personnage qui a le plus menti à tout le monde dans Hunter x Hunter. Et c'est marrant parce que Hisoka...
Oui, mais il a l'air tellement honnête en même temps.
Bah, ça, c'est vraiment à cause de sa représentation. Tu sais, il est vraiment très... ce qu'on appelle le clown blanc, tu vois. Il est élégant dans son maquillage de clown. T'as une différence avec Baggy, où c'est tout dégueulasse de partout. Hisoka, c'est une pointe de rouge, tu vois, c'est vraiment ce qu'on appelle le clown blanc. Et surtout dans l'histoire, et comme dans un cirque, le clown blanc, il a vraiment une vision à 360 de toutes les personnes, et il va leur faire des tours et compagnie. Et donc, il peut littéralement mentir à tout le monde d'une, mais ce qui est encore plus intéressant avec Hisoka, c'est que de base, tout le monde sait qu'il ne faut pas lui faire confiance. Et pourtant, il passe quand même des alliances qui finissent par détricoter. C'est vraiment un menteur. C'est un joker, quoi. C'est vraiment le joker du monde de Hunter x Hunter.
Oui, mais quand il regarde les mômes et qu'il leur dit vous m'intéressez, c'est plein d'honnêteté.
Mais ça veut pas dire qu'il ment tout le temps.
De psychopathe, tu vois.
Oui.
Mais quand il dit qu'il est un membre de la brigade, gros menteur.
Et même son pouvoir.
Son pouvoir, gros menteur.
Oui, mais c'est une énigme. C'est surtout ça, c'est ce qui est effrayant et vertigineux à la fois, c'est qu'il semble ne pas avoir de fond, en fait. C'est un personnage qui est constitué de strates, de superpositions comme ça, d'images qu'on se fait de lui, des choses que les autres personnages ont projetées sur cette feuille blanche, effectivement, ce clown blanc, et on ne sait rien de ses secrets, parce qu'il les cache vraiment... tout au fond de lui, au point qu'on se demande s'il en a. Parce que le malaise, ça vient aussi du fait qu'au final, il n'a aucune consistance. En fait, il peut changer d'avis vraiment en un claquement de doigts et on ne sait jamais sur quel pied il faut danser. Au point où on se dit, mais il n'a pas de personnalité propre. Enfin, il est juste guidé par son instinct de tueur et en fait, il n'y a rien d'autre dans son univers. Il est capable effectivement de trahir les uns les autres parce qu'il n'y a aucune autre valeur pour lui que celle de sa traque personnelle, de son amusement personnel. Et c'est là où il est hyper dangereux. Et mais pour moi, je suis désolée, mais Hunter, c'est vraiment la série des menteurs. Je veux dire, ils sont tous menteurs.
Menteur, quoi.
Ouais, menteur, exactement.
C'est déjà un film de Jim Carrey, s'il vous plaît, respectez.
C'est vrai. Mais de fait, ils doivent tous cacher leur pouvoir. Pour survivre et du coup naviguer dans cet univers, c'est devoir mentir tout le temps. Donc
ce serait pas bluffeur.
Ça peut être bluffeur aussi, mais ça dépend le degré de dangerosité du mec qui est en face.
Mais je vois ce que vous voulez dire au niveau d'Hisoka, c'est-à-dire moi je me suis beaucoup concentré sur la partie mensonge, mais c'est vrai qu'Hisoka est tout autant honnête aussi avec les autres personnels. Du coup, il est aussi menteur que honnête. Il est très honnête avec Gon et Kirua quand il leur dit vous m'intéressez. Il est très honnête avec Kurapika quand il lui dit mais si tu veux que je t'aide à récupérer les yeux, ouais je peux. Mais il est tout autant malhonnête de l'autre côté. Donc c'est vrai qui est dans cette espèce d'équilibre hyper instable, qui réagit beaucoup à ses instincts, comme tu dis au final. Donc c'est même dans le mensonge, j'ai un côté très pur quoi au final.
Ouais, mais moi j'aime bien par exemple, enfin un autre vraiment pilier de Hunter qui est pour moi aussi qui incarne le mensonge, c'est Biscuit. Enfin je veux dire au point que quand tu la vois sous son autre jour, tu dis c'est qui ça?
C'est ouais, mais elle se ment à elle-même plus qu'autre chose, non?
Oui, mais c'est quand même une forme de mensonge aussi.
C'est une forme de mensonge, mais j'aurais envie de l'excuser, Biscuit.
Oh, parce que tu l'aimes bien. Moi aussi.
Parce que je l'aime bien. C'est clair.
Non, mais c'est vrai que j'ai du mal à la voir en mensonge.
Bah, elle ment beaucoup. Elle aime pas son
apparence.
Ah,
je croyais que tu parlais juste de son apparence. Et juste au niveau de son apparence, encore une fois, ça fait partie du jeu des Hunters de cacher son apparence, sa force ou autre. Mais effectivement, après, elle ment. Bah, elle ment un peu comme Iruma avec Gon et Kirua, tu vois, pour les faire progresser. Elle leur ment aussi, quoi.
Et on termine cette émission avec, non pas un personnage, mais un manga d'escrocs, tout comme Hunter, un guide de l'escroquerie même, j'ai envie de dire, s'appelle Liar Game. Liar Game, c'est sorti il y a 20 piges hein, au Japon. C'est pas tout récent en France, je suis pas sûr que vous le trouviez. Enfin, si, vous pouvez encore le trouver d'ailleurs, en librairie, même en neuf, c'est pas du tout stoppé en termes de commercialisation. C'est 19 volumes, hein, Liar Game. C'était sorti aux éditions Delcourt, enfin aux éditions Tonkam à l'époque. Donc ça, c'est un manga 100% mensonge, 100% escroquerie.
Ouais, bah là pour le coup tout est dans le titre, hein. C'est le manga ultime du mensonge,
on y
est. Et effectivement c'est un titre qu'on oublie souvent alors que je trouve qu'il a vraiment de très grandes qualités. C'est vraiment le battle royale des escrocs et des manipulateurs. Donc tu vois, on va avoir toutes les typologies de menteurs qui assistent à un battle royale et c'est vraiment, je trouve, au lecteur de détecter qui ment réellement. Et pour moi c'est là le vrai tour de force du titre, c'est son côté vraiment unique. Il force le lecteur à devenir une espèce de détecteur de mensonges, vu que là, chaque partie, chaque jeu, de base, il faut mentir. Et du coup, toi, en tant que lecteur, tu dois capter qui ment au-dessus du mensonge. Donc, c'est un manga qui, je trouve, t'implique vachement comme lecteur. Voilà, en tant que détecteur de mensonges.
L'histoire de Liar Game, c'est une fille qui est naïve, Nao. Elle est d'une naïveté et d'une honnêteté absolument jamais vue. C'est assez ahurissant. Et elle reçoit un jour un colis qui contient 100 millions d'yens accompagné d'une carte bien écrite expliquant qu'elle a été choisie pour prendre part au Liar Game. Vous savez, c'est comme quand on recevait à l'époque par courrier, vous avez gagné 10 000 francs.
Oh, c'était plus.
100 000 francs, 10 000 euros, 15 000 euros, bref.
Alors on m'a appelé, on m'a dit que j'avais gagné 180 euros.
Ah bah bravo. Et donc, c'est ton patron ça.
Pas vraiment, non.
Et donc, le but de Liar Game, c'est de s'accaparer la part des autres joueurs par tous les moyens possibles. Et à la fin, le gagnant reçoit l'argent qu'il a volé aux autres et il doit rendre celui qu'on lui a donné au début, tandis que ceux qui ont perdu cette somme se retrouvent endettés. Nao, elle est naïve, elle est honnête, elle est donc horrifiée et elle fait appel finalement pour s'en sortir à un escroc qui sort de prison. Shinichi Akiyama, et elle s'engage donc dans le Liar Game, dans le but à la fin de démanteler ce Liar Game, où chaque arc, chaque partie possède ses propres règles à base de probabilités, de statistiques, de psychologie des différents joueurs, et l'honnêteté, la détermination de Nao va essayer de changer les règles du jeu, et tout ça se mêle à l'expertise psychologique et scientifique de Akiyama, qui lui est l'escroc. Donc c'est l'honnête et l'escroc ensemble face à un jeu du menteur et ils vont progresser au fil des épreuves, rencontrer des alliés, des adversaires, des escrocs, des doubles escrocs, des triples escrocs.
Bah c'est un peu ça le truc, c'est que justement vu que c'est tous des escrocs dans le Liar Game, bah l'honnêteté de ce personnage va s'avérer être leur point faible au final vu qu'ils n'ont pas l'habitude de parler avec des gens qui ne mentent pas en fait.
C'est la première fois qu'ils en voient une. Visuellement le manga il fait un peu mal aux yeux aujourd'hui par rapport
Ouais, moi je suis un petit peu moi je suis un peu rétro, j'aime bien ce dessin. Je trouvais qu'il était un peu dans la vibe d'Obata en plus de l'époque Death Note en moins poussé, mais il y a cette même idée de finesse dans le dessin, mais après
de finesse des visages alors.
Ouais, finesse des visages. Non, même décor au final assez androgyne, mais je veux bien comprendre que oui, je veux bien l'admettre qu'il a pris un petit coup de vieux.
Ouais, mais en revanche, c'est fou là, j'ai relu les deux premiers tomes pour cette émission, c'est fou comme ça peut être prenant.
Ah bah oui, moi je suis d'accord.
Je me suis mis dedans, j'ai fait mais c'est quoi ce manga, j'avais totalement oublié. Et j'étais dedans à fond. J'ai dévoré le tome 2 dans la foulée. Enfin, il marche encore trop bien. Voilà. Relisez Liar Game ou lisez tout court Liar Game si vous avez encore moyen de mettre la main dessus.
Je me suis toujours demandé pourquoi il n'avait pas été adapté par Netflix, celui-ci. Parce qu'en plus, t'as même pas besoin, comme dans Alice in Borderland, où t'es de beaucoup d'argent pour faire des effets spéciaux. Là, c'est vraiment des jeux à hauteur humaine. Alors, je crois qu'il y a un drama qui existe au Japon, enfin, qu'il y a déjà eu des adaptations japonaises. Mais je me suis dit, de tous les Battle Royale à prendre, pourquoi vous prenez pas celui-ci? C'est vraiment le plus simple à adapter. Et je trouve qu'il marche bien parce que tous les escrocs, bah, ils ont trop la classe en plus. Tu vois.
Ouais, puis même ne serait-ce que de quoi faire le premier épisode hein, ou un épisode et demi. Première histoire, le premier Liar Game, il est terrible et il marche trop bien. C'est vraiment un petit guide de manipulation des cerveaux humains, quoi.
Bah, je pense que aussi, pour revenir à ce que tu disais sur Netflix, Squid Game, c'est aussi une espèce de mélange entre le Liar Game, mais avec un côté très spectaculaire, avec des effets spéciaux un peu plus poussés ou des enjeux un peu plus de mise en scène un peu plus poussée, je sais pas.
Ah, mais t'as totalement raison. Squid Game a pris la place de Liar Game en augmentant le niveau. C'est-à-dire, dans Liar Game, tu perds de l'argent, dans Squid Game, tu perds la vie. Oui. Bon, bah voilà, évidemment, les gens, ils en veulent plus.
Photo.
Et voilà, nouvelle génération.
Le top mytho est terminé. Vous retrouvez tous ces mangas, je pense que pour la plupart vous les connaissez en librairie. Cosmos est également disponible pour le tome 1 aux éditions Kiun. Liar Game, les 19 tomes sont disponibles. Donc voilà, on vous a tout dit, on vous a dit toute la vérité, rien que la vérité sur ces mythos.
Mais écoute, moi j'ai une anecdote qui m'est revenue au cours de l'émission, c'est que apparemment je suis quelqu'un qui ment très mal parce que pendant que quand j'étais étudiante, il y avait une professeure d'espagnol qui n'avait qu'à me regarder pour savoir si, oui ou non, il fallait faire une interro ce jour-là, parce qu'elle me regardait, et quand les autres lui disaient « Non, non, aujourd'hui, il n'y avait rien de prévu, on a juste fait révision de vocabulaire », elle me regardait, elle me disait « Alors ?» Je disais qu'elle me regarde et je sais pas, il y avait quelque chose sur mon visage qui s'affichait et qui lui disait « C'est faux !»
C'est horrible qu'elle fasse ça, la prof. Je trouve ça horrible.
Je trouve qu'elle avait un super pouvoir surtout.
Mais moi, ça me fait penser à un truc, c'est-à-dire que quand j'ai arrêté de fumer, à un moment donné, je n'ai pas eu une insomnie, un jour, je me dis « Je vais fumer une clope, je vais le dire à personne. J'aurais toujours officiellement arrêté de fumer, mais je vais fumer une petite clope tranquille. » Et impossible de l'allumer, j'avais mal au ventre en l'allumant, en me disant je vais devoir mentir toute ma vie à ce sujet.
Ah, c'est bien.
La lourdeur du mensonge, genre, non, ça va me prendre trop d'années, ça.
Incroyable, je pourrais pas passer outre. Voilà, c'est ce genre de mensonge, pas très intéressant.
Ah, on est nul en fait, on est nul en mensonge.
C'est clair.
Non, moi je suis pas mauvais.
Oui, non, mais toi tu es notre maître en la matière.
J'aime bien.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Évidemment, on prolonge les discussions. On trouve plein d'autres mythos du manga, puis on prolonge ces discussions sur nos différents réseaux. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. La semaine prochaine, 5 mangas, 5 séries courtes que vous avez ratées. Il va falloir aussi sortir un petit carnet de chèques cette fois.
Ah bon, carrément.
Bah oui, on se limite à 5
séries courtes. Ouais, séries courtes.
5 séries de 5 tomes maximal.
Une série à amener l'été, 5 tomes, tu peux les mettre dans un sac.
Exactement. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.
Merci.
Salut.